Conférence sur le fond à Rimont le 12 novembre 1993. Deuxième conférence par le père Marie-Dominique Gauthier.
Je cite, la philosophie du champ d'inspiration grégorienne. C'est-à-dire, vous voyez, qu'est-ce que le philosophe peut essayer de dire sur une dimension de l'homme qui va essayer d'exprimer sous un point de vue artistique quelque chose de beaucoup plus profond. C'est ça qu'on va essayer de voir. Alors je vais faire quelque chose que, en fait, qu'il ne faudrait pas faire. C'est-à-dire, je vais commencer par avoir un regard un peu philosophique sur ce que c'est que l'art, l'activité artistique, la place de, peut-être un peu de ce que c'est que l'art chrétien, la place du symbole, on va essayer de comprendre un petit peu. Et dans cette lumière, vous lire un ou deux textes qui peuvent montrer comment c'est une réalisation qui répond à cela. Si j'avais du temps, vous voyez, ce serait toute une étude, il faudrait commencer par regarder tout ce que peuvent dire eux-mêmes ceux qui essayent de mieux comprendre ce qu'est le champ d'inspiration grégorienne. Et ensuite, bon, écouter aussi, vous voyez, et essayer de réfléchir ensuite en philosophe sur ce que ça nous dévoile, vous voyez, qu'est-ce que ça nous apprend. On parle de l'expérience en philosophie toujours, donc là c'est le manque de temps, vous voyez, enfin, il faut faire quelque chose d'assez condensé, donc j'essaye de vous donner quelques axes, et ça n'est rien d'autre que quelques pistes de réflexion, je prétends pas donner des solutions. Donc d'abord, vous voyez, ce qui me semble très important à voir, c'est quand, je dis bien que c'est une réflexion que je vais faire ici avec vous de philosophie de l'art, donc c'est pas une réflexion de philosophie de la religion, c'est pas une réflexion d'éthique, c'est pas une réflexion de théologie naturelle, ou même de théologie chrétienne. Mais c'est, philosophiquement, j'essaie de regarder cette réalisation de l'homme qui travaille, qui réalise une œuvre. Vous voyez, ce qui caractérise le philosophe qui réfléchit en philosophie de l'art, c'est de réfléchir d'abord sur l'expérience du travail, donc de réalisation d'une œuvre qui coopère avec une matière, ça part de là. Et dans votre expérience, il y a ça. Il y a une matière qu'il s'agit de travailler, de transformer pour exprimer quelque chose, pour faire une certaine œuvre. Vous voyez, en y réfléchissant, je me rappelais ce qu'il a dit dans la règle de vie des frères, du moins. Il a dit que la prière liturgique, c'est la réalisation la plus parfaite de la charité fraternelle. C'est pas dit l'exercice le plus parfait de la charité fraternelle, mais la réalisation, c'est donc une œuvre. L'aspect artistique implique une œuvre qu'on fait, et cette œuvre elle a sa qualité propre. Donc, vous voyez, comment est-ce que telle œuvre, telle réalisation que nous essayons de faire, qu'est-ce que ça exprime? Qu'est-ce que ça nous dévoile? Quel but ça a? Quelle est sa fin? Est-ce que c'est un art au service de la liturgie? Je crois que vous avez une conférence ce matin entre art et liturgie. Je ne vais pas reprendre ça. Vous voyez, c'est une question que se pose saint Thomas. Il dit, est-ce qu'on doit intégrer le chant dans la liturgie? Il dit oui, dans la mesure où ça nous aide à prier. Donc ça montre bien que la finalité du chant liturgique, c'est d'abord de nous aider à entrer dans un mystère qu'on vit à un autre niveau. Et ça, c'est très important à comprendre pour ce qu'on doit regarder de l'esprit du chant grégorien. Vous voyez, ce n'est pas une œuvre d'art qui s'arrête à l'homme. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Donc vous voyez, le philosophe est d'abord quelqu'un qui regarde l'homme qui travaille et qui réalise une certaine œuvre. Et puis, ultimement, il regarde, en philosophie de l'art, l'homme qualifié par cette œuvre. C'est ce qu'on appelle la philosophie de l'habitus d'art, où je regarde les différents arts, la peinture, la sculpture, la musique, l'architecture. Qu'est-ce que tous ces arts me dévoilent de l'homme qui travaille? Qu'est-ce qu'ils me dévoilent comme perfection particulière de l'homme? Qu'est-ce qu'ils expriment? Qu'est-ce qu'il révèle, j'allais dire? Qu'est-ce que tel art révèle de l'homme qui réalise cet art? Qu'est-ce que la sculpture nous révèle de l'homme et de l'univers physique? Qu'est-ce que la musique nous révèle de l'homme et de l'univers physique? Donc, qu'est-ce que le chant d'inspiration grégorienne, on y reviendra tout à l'heure, qu'est-ce qu'il exprime? À quoi doit-il nous conduire? La dimension de l'habitus d'art, c'est la qualité par excellence de l'homme qui travaille. Donc, c'est l'homme qualifié dans la réalisation de cette œuvre et qui exprime ce qu'il est et ce vers quoi il tend à travers son œuvre. Il y a une parole d'Aristote qui est très forte. Il dit « L'art, c'est le logos de l'œuvre. » Donc l'art, pour lui, c'est l'habitus. L'art est le logos de l'œuvre. C'est-à-dire l'habitus d'art que l'homme possède en lui, qui est une qualité qui vient qualifier son âme, son intelligence. C'est le logos de l'œuvre, c'est-à-dire c'est ce qui donne l'intelligibilité propre de l'œuvre qu'on réalise. Autrement dit, l'art qu'on doit acquérir, une certaine compétence, et on va y revenir là-dessus, c'est ça qui donne le logos de l'œuvre, donc de la réalisation qu'on accomplit. C'est ça qui me donne la signification, l'esprit de l'œuvre que j'accomplis. Alors vous voyez, il faudrait regarder quel est cet habitus qu'on acquiert de manière particulière. L'habitus, ce n'est pas une compétence technique, ce n'est pas une méthode, c'est pas des exercices qu'on fait. L'habitus, c'est pas ça, c'est un esprit. C'est quelque chose qui vient stabiliser, déterminer mon intelligence d'artiste dans ce que je fais. Vous voyez, Aristote a une remarque très belle, il dit l'habitus d'art, le propre de l'homme qui a l'habitus d'art, c'est qu'il voit ce qu'il faut faire. Donc c'est pratique. C'est de l'intérieur l'habitus d'art. Que j'entre dans un esprit parce que c'est telle chose que je veux communiquer. L'homme artiste, c'est pas quelqu'un qui réfléchit au niveau spéculatif. Il est quelqu'un qui fait quelque chose. Mais ce qu'il fait exprime ce qu'il porte en lui. C'est tout ce qu'on voit en philosophie de l'art, on voit bien que l'œuvre est le fruit d'un projet, d'une idée, donc d'une inspiration. Et cette inspiration, c'est de l'ordre d'une fécondité. C'est quelque chose que l'homme a en lui, qu'il porte en lui, dans sa vie la plus profonde, au niveau spirituel, vous voyez, et qui s'exprime en se servant de la matière sous un mode symbolique. Donc, c'est ça que ça veut dire l'art et le logos de l'œuvre. L'œuvre implique une union entre la forme et la matière. Et cette œuvre, elle a une dimension symbolique parce qu'elle exprime, elle évoque quelque chose. Et ce qu'elle évoque, c'est quoi? C'est ce que l'homme artiste porte en lui. C'est pour ça que c'est l'art qui est le logos. La détermination, elle vient de l'art. Et l'œuvre est un effet. C'est pour ça que l'œuvre nous conduit toujours à ce que l'homme porte en lui intérieurement. L'artiste, c'est quelqu'un qui évoque ce qu'il vit. Ce qu'il vit, de manière objective, c'est pas raconter son vécu. Il évoque ce qui est présent, comme ce qu'il y a de plus profond dans son aspiration, dans son cœur, dans son intelligence d'homme. C'est pour ça que tout véritable art est sacré. Sacré au sens où il y a quelque chose de spirituel. Bon, l'habitus d'art, c'est ça. Oui. Alors je dois regarder chacun des arts à ce moment-là. Comment est-ce que tel art, la peinture, qu'est-ce qu'il exprime de l'homme, de l'esprit, de l'intelligence de l'homme dans une œuvre qui se sert d'une matière particulière et qui a telle forme et qui assume telle et telle technique. Alors la musique, le chant, qu'est-ce que ça exprime de manière particulière de l'homme? En se servant de quelle matière et qu'est-ce que ça met en lumière comme qualité sensible. Parce que je crois que le propre de l'habitus d'art, c'est son deuxième effet. Non seulement il est quelque chose qui nous rend capable de voir ce qu'il faut faire, vous voyez, donc il nous donne cette espèce de détermination intérieure qui fait qu'on a le sens des choses. Et c'est pas rationnel. C'est de l'ordre d'une qualité qui fait qu'on est ordonné vers ce qu'on doit faire. Bien sûr, ça assume des compétences. C'est pour ça que l'homme qui est véritablement un artiste, il aura le souci tout le temps de se perfectionner. Il aura par exemple le souci, tiens, je voudrais acquérir telle technique parce que je serais plus libre pour exprimer ce que je veux porter. Vous voyez, le travail technique, il est pourquoi? Il est pour que l'instrument dont je me sers soit suffisamment qualitatif pour que j'en sois libre. Si je ne travaille pas, c'est bien évident que je serai dépendant d'une technique, je balbutie, donc je n'arrive pas à exprimer ce que je veux. L'art est emprisonné. Je peux avoir un très grand sens des choses, mais pas du tout savoir le faire, parce que je n'ai pas suffisamment travaillé. Et oui, la technique est seconde. Elle est portée de l'intérieur par ce qu'on doit faire. Alors, le deuxième effet que l'habitus d'art réalise, c'est que je crois qu'il nous donne le sens de la qualité sensible. L'habitus d'art n'est pas quelque chose de spéculatif, donc il n'est pas quelque chose qui va nous mettre dans une idéale, dans une abstraction. Il n'y a pas une théorie sur le chant grégorien. Normalement, la philosophie de l'art, elle doit nous permettre, je dirais, de mieux exprimer ce qu'on veut faire, parce qu'elle nous donne plus le sens de la qualité sensible qu'on utilise. Alors, quelle est la qualité sensible ? Vous voyez que le chant et que la musique met en pleine lumière. C'est très intéressant à regarder ça. Oui. Dans l'aspect symbolique, on se sert d'une qualité sensible qui est mise en pleine lumière et qui, parce qu'elle est mise en pleine lumière, peut servir à évoquer quelque chose de spirituel. Voyez, il y a comme un lien entre les deux. Pourquoi est-ce que la lumière physique évoque la lumière spirituelle, le mystère de Dieu, notre intelligence et le mystère de Dieu ? Pourquoi est-ce que tel sensible propre évoque plus telle chose, oui. Alors ça, il faudrait creuser beaucoup ça, ce serait dans l'homme le lien fondamental qu'il y a entre l'âme et le corps, oui. Et ça, il faudrait essayer de... On le reverra tout à l'heure, peut-être. Oui. Quand on dit l'art est le logos de l'œuvre, oui, l'œuvre implique l'union entre la forme et la matière. Et l'art, c'est la qualité d'une intelligence liée au sensible. L'art est typiquement humain. Il n'y a pas d'art angélique. C'est pour ça que quand on représente des anges en train de faire de la trompette, c'est très joli. Mais ce n'est pas précisément angélique. L'art est typiquement humain parce que c'est, je dirais, le fruit d'une intelligence qui se sert du sensible pour se manifester. C'est l'esprit dans le sensible, l'art. Donc vous voyez bien, il y a un lien entre l'œuvre qui implique cette unité entre forme et matière, donc l'esprit et la matière. Et puis l'homme qui implique âme et corps. Il y a comme un lien entre les deux. Comment est-ce que le sensible évoque ce que je porte en moi de plus profond ? C'est très important ça. Alors je crois que c'est ça qui fait bien comprendre, c'est peut-être un deuxième aspect sur lequel je voudrais m'arrêter un tout petit peu. Vous voyez, je vous disais, le rôle de l'art, c'est de nous montrer ce qu'il faut faire. Et c'est aussi de nous donner le sens vrai de la qualité sensible. Donc normalement, ça éduque notre sensibilité à l'art. Alors, deuxièmement, vous voyez, l'art implique le symbole. C'est ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Le symbole, c'est justement ce lien entre l'âme et le corps, entre l'esprit et la matière, entre la forme et la matière. Le symbole, c'est l'unité entre la représentation, donc qui est sensible, la signification, qui est d'ordre de l'intelligence. Puis il y a un troisième élément qui est spécialement présent dans la musique, on le reverra, c'est la dimension de la présence, c'est l'aspect affectif. Tout art, tout symbole, en représentant, signifie quelque chose et rend présent ce qu'il signifie. Il y a une présence dans toute œuvre d'art, toujours. Vous voyez, je prends un exemple, vous voyez, qui est tel tableau de Van Gogh, une paire de souliers. Il faut le faire, peindre des souliers. Et ça évoque quoi, vous voyez, symboliquement ? C'est pour lui, pour celui qui l'a fait, c'est chargé de toute la vie de celui qui a porté ça. Vous voyez. Donc c'est évoqué sous un langage extrêmement simple, je veux dire primitif en l'occurrence, vous voyez, quelque chose de toute une vie humaine, de tout le labeur d'un homme, de toute la souffrance d'un homme, et aussi de toutes ses joies. Et c'est ça que ça évoque. Alors faites les applications, on va y revenir tout à l'heure. Vous voyez, le symbole, c'est bien ça, c'est exprimer dans le sensible quelque chose de spirituel. Et je dirais exprimer, c'est pas encore juste, vous voyez, parce que c'est pas exprimer au sens de le dire, c'est évoquer. C'est pour ça que ça rend présent, toujours. Alors, soit ce que l'homme porte en lui de plus spirituel, donc de plus grand, et au point de vue humain, donc sa soif d'aimer, son amour actuel, sa recherche de vérité, et puis évoquer aussi négativement tous les obstacles qui empêchent l'homme de s'orienter vers sa fin. C'est pour ça, l'artiste mettra toujours en pleine lumière les contrastes, à la fois l'appel, le dépassement, et aussi ce qui vient entraver. C'est pour ça, par exemple, dans la peinture, le contraste fondamental, c'est toujours ténèbres et lumière. Vous voyez, la lumière jaillit des ténèbres. Et les ténèbres, c'est ce qui vient empêcher la lumière d'aller jusqu'au bout. Ou bien, dans l'architecture, vous voyez, essayez de voir toujours. L'architecture, c'est l'art qui manifeste la présence. Je veux dire, la sculpture, c'est l'art qui manifeste la présence du corps dans le milieu. Alors, à la fois le poids, et en même temps, le fait que le corps humain est porté par l'âme spirituelle, il y a un élan. C'est l'élan et le poids, toujours. C'est pour ça qu'il peut y avoir une sculpture très lourde, vous voyez, où la matière s'impose, c'est insupportable. Au contraire, une sculpture qui de l'intérieur donne cette espèce d'élan du vivant. Bon, ainsi de suite, voyez, l'architecture, c'est l'aspect cosmique du corps. Donc c'est la partie dans le tout. Voyez. Alors, soit on est écrasé par le tout, soit au contraire, il y a une espèce d'unité, et la partie est tout entière ordonnée vers le tout. Donc il faudrait essayer de voir ça. Et je crois que c'est dans cette lumière qu'on peut essayer de voir cette distinction que le Père fait, hein, qui est tellement importante, entre l'art sacré, l'art religieux et l'art chrétien. Et c'est, je crois que je suis obligé de passer par là pour regarder ensuite ce qu'on peut appeler le champ d'inspiration grégorienne. Oui. L'art sacré, il est humain. Il exprime ce qu'il y a dans l'homme de plus spirituel. Pour ça, tout véritable art est sacré. Hein. Ce qui n'est pas sacré n'est pas artistique. Alors ça peut être une technique, oui, c'est très bien, mais c'est pas typiquement humain. Vous voyez, qu'est-ce qui est sacré dans l'homme? C'est son esprit, donc c'est l'âme spirituelle. Et c'est son intelligence et sa volonté. C'est en ce sens-là que tout art a une dimension éducative. C'est autre chose, mais on y reviendra peut-être aussi tout à l'heure. Il m'éduque, c'est pas le propos de l'artiste. L'artiste ne cherche pas à éduquer, il réalise son œuvre. Et parce qu'il évoque symboliquement quelque chose d'ultime, il éduque ceux qui regardent, et ceux qui voient, ceux qui entendent. Il les dispose. Alors, l'art sacré, hein, l'art religieux, je crois que son caractère propre, c'est qu'il évoque d'une manière explicite ce lien entre l'homme et son créateur. Donc, il est porté de l'intérieur par l'adoration. J'allais dire, l'art religieux, c'est vous demander qu'est-ce que l'attitude religieuse et l'adoration viennent transformer dans l'activité artistique de l'homme, et donc ce caractère d'évocation symbolique de ce que l'homme porte en lui. Donc vous voyez, comment est-ce qu'un art religieux évoque ce lien entre l'homme et son créateur? Et posez-vous la question, hein, parce que sinon c'est pas vrai. Est-ce que tel chant est quelque chose qui évoque, qui me conduit, j'allais dire, par lui-même, hein, c'est pas une dimension morale, c'est pas chanter pieusement les psaumes pour nous aider à adorer, c'est pas ça. C'est comment est-ce que telle réalisation nous dispose, vous voyez, nous oriente vers cette dimension religieuse de l'homme. Et puis, aussi, il y a un nouveau regard sur l'univers physique dans l'art religieux. Vous voyez. C'est plus seulement la matière que je travaille pour évoquer ce que l'homme porte en lui, donc le lien entre l'âme et le corps, vous voyez, mais c'est évoquer comment l'univers physique me parle du Créateur tout le temps. Et puis en dernier lieu, l'art chrétien, c'est se poser la question, qu'est-ce que la foi chrétienne vient transformer de l'intérieur dans l'inspiration? Donc, qu'est-ce que la foi chrétienne vient modifier dans l'homme qui réalise une œuvre pour exprimer ce qu'il porte en lui? Vous voyez, c'est bien sûr la foi vécue par l'homme, la foi reçue dans l'homme. Alors vous voyez, c'est très important parce que tout de suite, bien sûr, pour l'art chrétien, ça va nous évoquer tout de suite le mystère du Christ. Parce que il y a dans le Christ, il y a cette unité, voyez, entre le mystère de Dieu et un corps physique sensible. C'est pour ça que tout véritable art chrétien est tout de suite lié, évoque le mystère du corps glorieux du Christ. Donc il est pour nous, hein, qui sommes encore sur cette terre, il est toujours centré sur l'Eucharistie. C'est très important à comprendre. Et puis bien sûr, j'ai tout le mystère de l'unité, hein, avec ce mystère même de Dieu qui nous est donné dans le Christ, c'est le mystère de Marie. Je crois que c'est les deux pointes de l'art chrétien, toujours. C'est d'une part le Christ, et Dieu qui se rend présent à nous à travers un corps humain, sensible, et partie de cet univers. Le sommet de l'art chrétien, c'est le corps du Christ. Donc vous voyez, j'allais dire, hein, le sommet de l'art chrétien du côté du chant, c'est par rapport à la voix du Christ. Oui. Il y avait dans l'Apocalypse la voix des grandes eaux. Alors comment, et posez-vous la question, bien sûr c'est pas la réalisation actuelle, hein, mais comment est-ce que l'homme chrétien qui réalise une œuvre liturgique, comment est-ce qu'il évoque, comment est-ce qu'il est là pour nous faire entrer dans cette contemplation du mystère du Christ, sous cet aspect particulier? Vous voyez, c'est la place de la voix. Hein. Vous voyez, quand il faudrait regarder dans Saint Jean tout ce qui est dit sur la voix. L'époux et l'épouse, l'ami qui entend la voix de l'époux et qui est ravi de joie à la voix de l'époux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors oui, bon, dans cette lumière, on peut très bien se dire, mais ça c'est très bien, mais en fait le mystère, il n'est pas au niveau artistique, c'est bien évident. Oui. je ne vis pas du mystère du Christ au niveau artistique en premier lieu. J'en vis dans ma vie chrétienne au niveau des vertus théologales. Donc il s'agit de nous demander pourquoi et comment une réalisation artistique, une réalisation liturgique est nécessaire pour nous. Pourquoi est-ce qu'elle doit nous aider et à quoi doit-elle nous aider? Je dirais, elle n'a de sens que si elle évoque le mystère que nous devons vivre. Et si elle en vient. C'est pour ça que le chant liturgique jaillit de la prière silencieuse. Et il doit y conduire. C'est ce que dit saint Thomas. Saint Thomas dit, le propre du chant, toute louange vocale doit s'achever dans la prière silencieuse. C'est très important à comprendre. Donc, autrement dit, vous voyez, quand on réalise une œuvre artistique, l'aspect du chant, on doit se demander, est-ce que ce que je chante conduit à ce mystère du silence, de l'unité vivante avec le Christ? Est-ce que c'est quelque chose qui dispose à se mettre sous le souffle de l'Esprit Saint, ou au contraire c'est quelque chose qui est tellement lourd que ça m'entrave? Soit, vous voyez, le conditionnement, il peut disposer, ou au contraire il peut nous arrêter constamment. Bien, l'art, c'est comment le conditionnement est ordonné à la finalité. C'est ça qui est important à comprendre. Vous voyez, comment, dans mon conditionnement le plus sensible qui soit, je me sers ce conditionnement pour m'ordonner à la finalité. Donc la finalité dont on veut vivre, ben, je viens de vous l'évoquer très rapidement. Vous voyez, je dis c'est le mystère du Christ, le mystère de Marie. Bon, je ne vais pas développer ça, ça c'est le Père qui doit dire ça. Et la place du mystère qu'on doit vivre pour nous, l'esprit propre. Alors, dans cette lumière, le chant liturgique, il est ce qui doit nous disposer à partir de notre vie la plus sensible qui soit à vivre ce mystère. C'est pour ça, vous voyez, il est vrai, et là c'est une question de vérité, il est vrai, le chant liturgique, s'il nous conduit à ce mystère dans lequel on doit entrer, et qui est au-delà du chant, c'est bien évident. Le chant n'est pas une propriété de l'amour. La propriété de l'amour, c'est le silence. Mais le chant dispose. Ce que dit saint Thomas, je ne vais pas vous lire cet article parce qu'on n'aurait pas le temps, il faut le relire de temps en temps pour des chants, dans la Somme. C'est dans la Secunda Secundae, question 91, sur la place de la louange. Et est-ce qu'on doit user de chant pour louer Dieu? Et saint Thomas a une objection fameuse où il dit qu'on ne doit surtout pas user de chant de théâtre et d'opéra. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est, vous voyez, c'est pas un critère comme ça, a priori. C'est pour dire que ça n'est légitime que dans la mesure où ça me conduit au mystère et au silence. Et tout ce qui est pour me manifester moi-même, c'est pas ce qui m'y conduit directement. C'est très intéressant, vous le lirez vous-même, parce que on verra si on a le temps à la fin. Donc vous voyez, je dirais pour nous, c'est pour ça que c'est important. Quand je disais l'artiste évoque, la dimension du chant liturgique, c'est dans notre conditionnement le plus sensible, c'est une des dimensions, la liturgie ne se réduit pas à ça, comment nous sommes, à partir de là, conduits jusqu'au mystère disposé. Alors vous voyez, dans cette lumière, je voudrais tout de suite regarder, pour aller un petit peu plus loin, qu'est-ce qui caractérise en propre l'art du chant et l'art de la musique? Ça, c'est important. Et puis, qu'est-ce que ça peut être qu'un art du chant ou un art musical qui soit un art chrétien, si vous voulez? Puis dans cette lumière, je dirais un texte de Magdalite. Et c'est une réalisation parmi d'autres. Donc, le chant et la musique, je crois que c'est... Vous voyez, ce qui caractérise la musique, pour moi, il me semble, c'est que c'est tout de suite... Vous voyez, c'est très délicat, parce que quand on regarde la matière de la musique, c'est le son. Et le son, voyez, quand Malraux dit l'art est un antidestin, c'est très difficile de la musique, de dire ça de la musique. Parce que vous voyez, là... La matière qu'utilise le chant et la musique, c'est une matière qui est fugitive. Je parle, je ne parle plus, c'est terminé. L'art est disparu. La musique, ce n'est pas la partition. Elle est en acte quand j'exécute ou quand je compose et que je joue ce que je compose, vous voyez, ou que j'improvise. Donc, il y a quelque chose qui jaillit de l'intérieur et qui est tout de suite, voyez, du côté du mouvement. La musique est du côté du mouvement, tout de suite. Mais d'un mouvement qui est un mouvement de l'intérieur. Est-ce qu'il y a de la musique dans l'univers physique? Oui, ça touche le problème des pythagoriciens. Quand les pythagoriciens disaient que c'est les sphères célestes qui donnent la musique de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ordre de l'univers, c'est un ordre dans le mouvement. Et la musique se fonde là-dessus pour les pythagoriciens. Il y a une dimension cosmique dans la musique. C'est très intéressant aussi, ça. Comme dans l'architecture. Et le mouvement fondamental, c'est le mouvement physique de l'univers dans lequel je suis. Et c'est très important à comprendre, ça. Donc le mouvement fondamental de la musique, c'est le mouvement physique de l'univers. Avec son rythme propre. Et son rythme, c'est quoi? C'est lumière et ténèbres. Lumière et ténèbres, et puis le rythme des saisons, chaud, froid, etc. Et le rythme, c'est d'abord un rythme fondamental dans l'univers. Et quelque chose de beaucoup plus encore dans la musique, parce que ça, on pourrait dire que c'est encore aussi l'architecture, ça, oui. Dans la musique, il y a un rythme qui n'est pas seulement le rythme physique, c'est le rythme de la durée vitale. Je crois que c'est ça que la musique exprime en propre, oui. Pour ça que parler un peu à un musicien, et ça, on tombe dans des choses à ce moment très techniques, oui, de la place de l'ordre et de la mesure, oui. Est-ce que la musique, c'est uniquement la mesure et l'ordre dans cette mesure? Je crois pas, oui, ça c'est encore l'aspect matériel. C'est dans l'ordre et la mesure, le rythme vital. Pour ça que je crois que ce qui caractérise en propre l'art de la musique, c'est l'aspect de l'élan. C'est exprimer dans une qualité sensible en usant de la mesure, de l'harmonie, de la mélodie, de l'ordre, donc des différents modes, etc., exprimer un élan propre au vivant. Le rythme du vivant, c'est quoi? C'est dans la durée un rythme immanent, vous voyez, le rythme du repos et de la veille. Alors, il faudrait regarder tous les rythmes possibles du vivant. Le rythme le plus fondamental, c'est, chez le vivant, le repos et la veille. Ensuite, il y a la naissance et la mort, la croissance et la décroissance, l'assimilation et le discernement. Vous voyez, il y a un rythme chez le vivant, qui est un rythme qui vient de l'intérieur. Donc si vous voulez creuser encore un petit peu, là j'utilise la philo du vivant, oui, d'où vient ce rythme pour le vivant? Il vient de l'intérieur, de l'âme. Et c'est, le rythme du vivant vient de son âme. Et c'est l'âme qui porte le corps, qui fait que le corps a son ordre et son rythme propre. Vous voyez. C'est en ce sens-là que le rythme vital d'un homme n'est pas le même que le rythme vital d'un hippopotame. Et parmi les hommes, le rythme vital d'un homme qui vit telle vie n'est pas le même que le rythme vital d'un homme qui vit telle autre vie. Ça va très concrètement, ça. Vous voyez. Le rythme vital de quelqu'un qui cherche à mener une vie contemplative n'est pas le même que celui qui mène une vie de bûcheron. C'est évident. C'est pas la même fin. Vous voyez, ça touche. Quand je dis le rythme vital, c'est l'âme dans le corps, ça touche le fait que l'âme est acte du corps. Ça veut dire que tout le corps organique, pour le vivant, il est tout entier ordonné à l'âme dans ses opérations ultimes. Ce qui caractérise le vivant. Vous voyez, pour l'homme, toute ma vie végétative, toute ma vie sensible, elle est tout entière ordonnée vers ce qui est en moi de plus spirituel. Donc, la recherche de la vérité, la recherche de la lumière, donc de Dieu, et la recherche de l'amour. C'est ça qui donne le rythme vital de l'homme. Tout le rythme vital de l'homme se comprend par rapport à cette recherche de cette fin. Je suis ordonné vitalement, donc je vis dans un certain rythme, parce que je suis relatif à telle fin. Ah oui, dans cette lumière, ça fait comprendre comment l'art de la musique, il exprime ça sous un mode symbolique. Oui. C'est-à-dire, il met cette qualité, quand je disais cette qualité du vivant, là je fais de la philo du vivant, j'expérimente quelque chose, je le regarde. Et l'art fait quoi? L'art regarde cette qualité sensible qu'il met en pleine lumière, qu'il exprime sous un mode symbolique, à travers le son, le rythme vital, le mouvement. Je crois que c'est ça, donc c'est ça qui caractérise pour moi en propre la musique en premier lieu. Mais vous voyez, comme c'est d'ordre artistique, c'est mis en pleine lumière, donc c'est vécu avec une très grande densité, une très grande intériorité. C'est en sens ça que la musique, tout de suite, vous voyez, pour Platon, la musique c'est l'art le plus éducatif, hein, faut pas l'oublier. Parce que c'est tout de suite ce qui dispose l'homme à saisir son rythme vital propre, et ce qui l'ordonne vers sa finalité. Et pour Platon, il va très loin dans les détails dans la République. Alors, regarder si Aristote dit la même chose dans la politique. J'ai pas eu le temps de regarder. Mais, parce qu'ils ont tous des théories sur les modes musicaux en Grèce. Alors, Platon dit, tel mode éveille à la colère. Tel mode, au contraire, est un mode lascif, il doit être banni. Tel mode nous entraîne vers telle chose. Oui, bon. Donc, oui, c'est sous un mode symbolique, il y a quelque chose, la musique nous oriente vers. Oui. C'est bien évident, quand on parle d'un mode mineur, d'un mode majeur, c'est pas la même chose. Oui. Il y a des tonalités qui ne sont pas les mêmes. Parce que la musique implique un aspect affectif tout de suite, donc c'est l'ordre vers la fin. Oui. Le rythme est lié à la finalité. Hein. C'est le vivant qui atteint sa fin. Alors, oui, j'allais dire, hein, dans cette lumière, on peut. Tout à l'heure, ce que je disais, quand je vous montrais l'aspect symbolique de l'âme et du corps, vous voyez, le corps de la musique, c'est quoi? C'est le son, c'est l'ordre, c'est la mesure. Et l'âme, c'est quoi? C'est le rythme. C'est l'orientation vitale, donc c'est l'élan. Oui, vous pouvez chanter, exécuter parfaitement une pièce, mais alors vraiment, ça laisse tout le monde de marbre. Oui. Ça n'aide pas du tout à prier, parce qu'il n'y a pas d'âme. Oui. Alors, ça peut être parfaitement. Vous voyez, vous pouvez faire chanter vos anciennes par un ordinateur. Très intéressant. Quelqu'un qui met une cantate de Bach sur ordinateur, c'est vraiment tout ce qu'il y a de mieux, vraiment. Et l'ordre et la mesure y sont, c'est parfait. Hein. Ça tombe pile au bon moment. Rien qui bouge. Vous voyez. Mais il n'y a pas d'âme. L'âme, c'est l'intériorité. Oui, et au contraire, vous pouvez avoir une exécution qui n'est pas parfaite parce que votre voix est déficiente, parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui. Vous voyez, vous ne connaissez pas. Oui. Bon. Mais il peut y avoir une véritable âme qui conduit à la prière. Oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acquérir la technique. Si j'ai la charge, je dois l'acquérir. C'est ma responsabilité propre. Quand on dit qu'on ne cherche pas l'efficacité, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas l'obtenir. L'œuvre, c'est l'efficacité de l'art. Et donc, il s'agit d'acquérir la compétence qu'on nous demande. Si j'ai la charge de chantre, je dois acquérir une certaine compétence qui implique des dispositions naturelles. C'est pour ça, normalement, on ne choisit pas n'importe qui, quand même. Donc, il y a quelques dispositions naturelles, mais que je dois travailler pour pouvoir avoir cette liberté suffisante pour que, dans ce que je chante et dans ce que je communique pour aider mes frères, il y ait... cette orientation, ce rythme, cet élan vital qui passe, et cet élan, il est conduit par quoi pour nous? Cet élan vers l'unité avec le Christ dans le silence. Pour ça qu'un véritable chant liturgique chrétien, je crois qu'il nous conduit à cette présence du Christ pour nous, à cette unité avec lui dans le silence. Donc il implique un élan, et c'est tout notre être qui est tendu vers lui. Si vous chantez ça assis comme des chanoines sur un siège rembourré, c'est sûr que ça ne va pas tellement vous aider à vous tourner vers le Christ. Vous voyez, c'est ce que le Père nous disait ça hier au chapitre à Saint-Jodard. C'était très, très amusant, parce qu'il est allé à Miami chez Dominicain, vous l'avez peut-être raconté ici. Alors il assistait à l'office, et tout le monde... on arrive à l'office, on s'assied, on ouvre son psautier, puis c'est parti. Et alors, il nous a dit, hein, les sièges, c'était vraiment, mais des sièges, mais bien rembourrés, fallait voir, le père mimant ça, hein, c'était très drôle. Je veux dire, j'assistais à ça, mais comme c'était en anglais, je comprenais rien, donc je récitais pieusement mon office en français dans mon coin. Hein. Mais vous voyez, bon, sans rien comprendre, ça évoque tout de suite, vous voyez. C'est pas un chant liturgique qui nous aide à nous tourner vers le Christ, vous voyez, ça nous aide, on reste pieusement dans son coin, vous voyez. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Oui, c'est vraiment le rythme vital que l'art musical capte et met en pleine lumière. Oui. Et le rythme vital de l'homme. Donc pour nous, le rythme vital de l'homme sanctifié par la grâce qui se tourne vers le Christ. Oui. C'est pour ça que et quelqu'un comme Magdalite, par exemple, elle dit pour moi, le chant liturgique chrétien, il est le chant du souffle. Parce qu'il doit nous aider à comprendre ce rythme de l'Esprit-Saint dans notre vie. C'est ça qu'elle veut dire. C'est pas la réalisation qu'il faut regarder, voyez, au sens de voilà, c'est ça l'Esprit Saint, mais pas du tout. Voyez. L'Esprit Saint n'est pas dans le chant. Le chant évoque symboliquement quelque chose dont on vit intérieurement. C'est pour ça qu'il a sa vérité, dans la mesure où il me conduit à ça, où il m'y dispose. Et je l'exécute avec vérité si je cherche à en vivre. Sinon, Bah, ça reste extérieur, vous voyez. Vous pouvez avoir une technique parfaite, mais c'est pas ça du tout. Alors, vous voyez, dans cette lumière, je voudrais juste vous lire un tout petit passage d'un texte du Père sur la musique. Et puis après, on va essayer de mieux réfléchir là-dessus. C'est le rythme vital que l'art musical capte et révèle avec éclat de multiples manières. Sous cet aspect, il apparaît bien comme l'art par excellence, celui qui exprime le mieux le rythme intime de la vie. La musique transpose, en le transfigurant, le rythme propre du mouvement vital dans toute son impétuosité instinctive qui ne demande qu'à jaillir. Elle exprime le rythme harmonieux et violent du mouvement vital contenu, retenu, arrêté dans son élan, ou au contraire le rythme harmonieux et doux du mouvement vital, avec toute la fraîcheur d'un mouvement spontané et jaillissant de source, avec toute la souplesse caressante d'un mouvement parfaitement adapté. Très étonnant, hein, le mouvement vital. La musique est l'art qui exprime la beauté du souffle, de la respiration. Et pensez aux techniques. La beauté du souffle, de la respiration, de l'amour retenu, simple murmure ou souffle impétueux et violent, tel l'ouragan qui arrache tout, ou encore souffle purifiant à l'origine de toutes les rencontres. Ah oui, il faudrait comprendre ça, hein, mais vous voyez, quand on dit ça, c'est la musique, vous voyez, qui exprime quelque chose de l'homme, vous voyez, l'amour humain, et le rythme vital de ce vivant qu'est l'homme, qui est tout entier orienté. Vous voyez. Qu'est-ce que ça nous exprime pour un art qui cherche à mettre en lumière le rythme vital de celui qui vit sous le souffle de l'Esprit-Saint? Vous voyez, quand on dit symboliquement dans l'Écriture que l'Esprit-Saint, il est feu, qu'il est eau, qu'il est une source jaillissante, qu'il est un souffle, qu'il est à la fois violent et impétueux, qu'il agit soit vitaire et fortitaire. Et c'est toutes ces dimensions qu'il faudrait regarder. Et l'art, elle exprime le rythme harmonieux et violent du mouvement vital contenu, arrêté dans son élan, ou au contraire, le rythme harmonieux et doux du mouvement vital avec toute la fraîcheur d'un mouvement spontané et jaillissant de source. Vous voyez, à la fois le feu, la violence, l'impétuosité, et d'autre part, le mouvement spontané et jaillissant de la source. Vous voyez. C'est bien ça, vous voyez, la dimension de l'art. Hein. L'ordre et la mesure, c'est pas la source. Vous voyez. Alors, il faut l'ordre et la mesure, mais au-delà de ça, il y a une source qui jaillit. Et ça, la source, elle jaillit de l'intérieur. Vous voyez. Je dirais, c'est pour ça que la première qualité d'un chant qui doit nous aider à entrer dans la prière, c'est bien cette espèce de liberté profonde qui nous conduit au silence. Oui. On sait très bien qu'il y a des offices qui peuvent nous arrêter dans la prière, parce qu'on a l'impression d'être dans un carcan. Oui. Il y a quelque chose qui s'impose de l'extérieur. On sent que ce n'est pas vécu, oui, ça n'aide pas. Et au contraire, il y a des offices qui peuvent être quelquefois beaucoup plus pauvres, oui, mais qui orientent vraiment vers cette dimension intérieure et qui nous font entrer dans ce rythme de la prière profondément. Vous voyez, le rythme de la prière, profondément, c'est le rythme de l'Esprit-Saint dans notre cœur. Hein. C'est l'appel que l'Esprit-Saint met dans notre cœur à l'égard du Père. Donc, comment est-ce que le chant doit être imprégné par ça de l'intérieur? Encore une fois, c'est ce qu'on vit dans la prière intérieure. Mais le chant qui est du côté de la louange, à la fois il jaillit du silence et il nous y conduit. Donc il doit avoir ce même rythme vital. Alors vous voyez, c'est ça qui me semble, c'est qu'on doit comprendre que le rythme vital et le souffle propre qu'exprime l'art chrétien, c'est bien celui de l'Esprit-Saint dans notre cœur. Je vous disais tout à l'heure, c'est le Christ et la Vierge Marie qui caractérisent l'art chrétien. Alors j'allais dire, le propre de l'art chrétien, c'est du chant, hein, liturgique chrétien. Je dirais plus que ça, je dirais du chant exécuté dans une vie contemplative chrétienne. C'est de nous donner le sens, jusque dans les choses les plus sensibles, de cette orientation de l'Esprit-Saint dans le cœur du Christ, de ce rythme de l'Esprit-Saint dans le cœur du Christ. Ça doit nous disposer à ça. Et ça l'évoque symboliquement. Alors vous voyez, il faudrait regarder dans cette lumière quels sont les rythmes fondamentaux de ce vivant qui vit sous le souffle de l'Esprit-Saint. Vous voyez, quand saint Paul dit, ce sont ceux qui sont mis par l'Esprit-Saint qui sont fils de Dieu, donc ceux qui vivent au rythme de l'Esprit-Saint, c'est tout intérieur. Mais quels sont ces rythmes fondamentaux? C'est la ferveur de l'amour, donc c'est l'élan. Faire regarder dans cette lumière le Magnificat, oui. Le Magnificat, c'est sûrement le chant liturgique chrétien par excellence, parce qu'il exprime, oui, d'une manière sensible, extérieure, cette espèce d'élan, de rythme profond de l'Esprit-Saint dans le cœur de la Vierge Marie. Donc il faudrait regarder comment c'est l'archétype de tout chant liturgique chrétien. Donc, vous voyez, regardez le lien entre... Et quels sont les rythmes fondamentaux du chant liturgique? C'est quoi? C'est la parole et le silence. C'est l'élan et la retenue. Alors, il y a le grave et l'aigu. Il faut regarder ça aussi. La modalité. Il y a la force et la douceur. Et l'élan et la retenue, ça exprime la force et la douceur. À la fois, c'est un chant qui est fort, parce qu'il est dans un élan qui vient de l'intérieur. Il n'y a rien de mièvre. Mais en même temps, il n'est pas violent, il est doux. Donc il est maîtrisé. C'est pour ça, vous voyez, qu'il faut se demander la place de la polyphonie, c'est très important dans cette lumière. Peut-il y avoir l'élan et la retenue exprimés de la même manière, oui. Alors, vous voyez le lien entre le feu et l'eau, la lumière et les ténèbres. Alors vous voyez, dans cette lumière, je voudrais simplement vous lire un tout petit texte. Alors, vous voyez, puisqu'on m'a demandé de voir la philosophie, on m'a dit que je pouvais terminer. Du chant d'inspiration grégorienne, vous voyez. Donc, c'est une réalisation, vous voyez. Et je dirais, ce qui est important de comprendre, c'est l'esprit dans lequel c'est fait. Et parce qu'on m'avait imposé cette conférence, je dis bien imposé, sans me prévenir. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire? Alors, je suis allé voir Magdalide quand même, pour lui demander, parce qu'il fallait essayer de comprendre. Alors, elle m'a dit deux choses qui m'ont beaucoup frappé, et je les ai retrouvées dans un texte après, donc je vais vous le lire après. Elle m'a dit, pour moi, ce que ça doit exprimer de propre, c'est d'une part, c'est le cri de l'enfant dans le désert. Elle m'a dit, pour moi, c'est ça que ça exprime. C'est en ce sens-là que pour elle, il y a ce qu'elle appelle le mélisme, qui est cette espèce de, oui, le rythme immanent du chant, il doit jaillir de ce qu'il y a de plus profond dans notre cœur. Alors, c'est là, vous voyez, alors, devant ça, on lui oppose, mais comment voulez-vous faire chanter une communauté au même rythme dans cette lumière? Elle dit, c'est possible. Il faudrait essayer de comprendre ça. Donc, première chose, le cri de l'enfant dans le désert. Alors, et il faudrait voir, pour nous, j'allais dire ça, c'est encore, elle m'a dit oui, parce que le chant grégorien vient du chant de la synagogue, donc c'est l'attente du Messie. Et c'est le cri de l'homme qui est tout entier ordonné vers Dieu. Oui, c'est ça que ça veut exprimer symboliquement, en fait, attention. Le cri de l'homme qui est tourné vers Dieu, c'est d'abord tout entier, c'est tout à fait intérieur, c'est bien évident. Mais comment le chant, l'art du chant, exprime ça? Parce que notre corps fait partie de ce que nous sommes. Donc comment est-ce que, dans ce que vous dites, dans ce que vous chantez, est exprimée cette attente, cet élan vers celui qui vient? Alors, vous voyez, pour nous, qu'est-ce que ce serait? Le cri de l'enfant dans le désert, dans un art chrétien, c'est pas seulement l'attente du Messie, c'est le cri du Christ lui-même à la croix. Donc c'est comment la parole de Dieu nous conduit au silence et à l'appel du Christ au-delà de toute parole, au-delà de toute œuvre. Et c'est ça, je crois. Alors elle dit, pour elle, c'est ça que ça exprime en propre, l'esprit du chant d'inspiration grégorienne. Donc ce qu'elle essaye de retrouver, je vais vous lire ensuite un aspect. Mais parce qu'elle m'a dit, pour moi, il y a une scolastique du chant grégorien comme il y a une scolastique de la théologie, c'est bien évident. Alors pour elle, la chose majeure de la scolastique, c'est chanter à note égale. Elle dit, ça c'est la scolastique. On confond grégorien, ou cette espèce de chant qui a cette espèce de liberté, et puis cette espèce d'académisme, vous voyez, qui formalise les choses, qui reste au niveau de l'ordre et de la mesure précisément. Donc on confond avec le plein chant, ce qu'on appelait le plein chant dans l'histoire. Mais ça, je ne suis pas historien de la musique, donc. Donc premier aspect, elle dit, pour moi, c'est essayer de retrouver cette espèce de source. Revenir à la source pour trouver qu'est-ce que ça exprime fondamentalement, qu'est-ce que ça doit nous faire vivre. Et à quoi ça doit nous éduquer, nous disposer. Donc le cri de l'enfant dans le désert, moi, je dirais, oui, pour nous...
au-delà de toute œuvre, au-delà de toute parole, l'appel vers Dieu, vous voyez, celui du Christ à la croix. Donc vous voyez, je ne dis pas qu'on doit crier au cœur, mais comment le chant liturgique nous évoque cet appel vers Dieu au-delà de toute œuvre. C'est ça qui est très difficile, oui, parce que c'est, je vous ai dit tout à l'heure en commençant, c'est une œuvre le chant liturgique, c'est une réalisation. Comment, dans la réalisation, il y a cet appel vers la gratuité au-delà de l'œuvre qu'on fait. Bien, il y a des chants qui l'expriment, il y a des chants qui ne l'expriment pas, oui. Il y a des chants qui sont clos sur eux-mêmes. C'est ça qui est très intéressant. Oui. C'est pour ça qu'il y a des chants dans lesquels on a une complaisance, vous voyez. Et au contraire, il y en a qui nous je dirais qu'ils sont un appel au-delà de ce qu'ils sont. Bon, ça, c'est typiquement Saint Jean. Hein, oui. C'est comment, dans l'œuvre, il y a un appel à dépasser l'œuvre. Travailler non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure dans la vie éternelle. C'est pour ça que c'est bien, l'aspect eucharistique est important pour nous. Hein. C'est l'eucharistie qui nous donne ce sens-là, oui. Parce que le sommet de la liturgie, pour nous, c'est l'eucharistie. Et cependant, c'est complètement au-delà de la liturgie. Parce que c'est un silence, oui. Alors, vous voyez, si tout le chant liturgique doit être marqué par l'Eucharistie, ça veut dire qu'on doit comprendre le dépassement constant du chant vers le silence. Et ça, ben, y a rien à faire, ça commande une idée. Ça commande ce qu'on fait, vous voyez, de l'intérieur. On ne peut pas utiliser n'importe quelle matière, on ne peut pas utiliser n'importe quoi pour évoquer cela, c'est impossible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres liturgies, attention, je ne pose pas de jugement ici. Que les dieux t'aient une clé de femme, etc. L'aspect technique, oui. Alors, elle développe pas ça ici, oui, mais c'est à partir de là qu'il y a une scolastique qui s'introduit. Oui. On garde pas l'esprit, mais on reste à un niveau formel, voyez. On formalise, on codifie. Et on croit qu'en codifiant, on vit encore de l'esprit. Oui. C'est ça la scolastique. Hein. On répète des conclusions. On remonte pas constamment à la source. Alors, bref, j'ai tenté depuis plusieurs années de faire une révision du graphisme des neumes, donc la notation. C'est un aspect technique, mais qui montre bien une inspiration derrière. C'est remonter à la source pour retrouver ce que ça veut nous exprimer. Alors ensuite, c'est ça qu'elle essaye de dire. Alors, je lis. Alors, vous voyez, c'est un peu en désordre. Hein, donc, gardez les éléments, puis il faudra y réfléchir. Hein, c'est juste ici un axe, hein, quelque chose qui doit nous aider à réfléchir. Neum est une altération du mot grec pneuma. Il est donc le chant du souffle par excellence. J'ai tenté de restituer son identité, c'est-à-dire son mélisme libre et ordonné, influencé par l'esprit du chant synagogal. Donc, vous voyez, chant du souffle, donc liberté dans le rythme. Vous voyez, c'est bien ça. Rythme vital, c'est pas un rythme, vous voyez, extérieur, juxtaposé du monde physique. Ça vient de l'intérieur. Vous voyez, et ça veut pas dire chanter n'importe quoi. C'est, le rythme, c'est de l'intérieur qu'il y a quelque chose de nouveau qui se communique. C'est pour ça qu'elle dit tout le temps, par exemple, quand elle note les choses dans les partitions, elle dit, c'est une indication. Oui. Je ne dois pas exécuter avec un métronome, sinon, alors là, c'est désastreux. Sa permodalité lui confère une universalité. Il n'exprime pas la vie au sens réaliste du terme. C'est un chant impersonnel et vivant. Donc, vous voyez, il y a un aspect objectif qui dépasse. Oui, la vie au sens réaliste du terme, pour elle, je pense, c'est le vécu. Il n'est ni un fruit, ni une inspiration de l'esprit propre. Il opère une ouverture sur la vie mystique et sa valeur est apologétique. Vous voyez, deux dimensions. Il ouvre au silence et il convainc, parce qu'il met en plein air la parole. Donc il y a une dimension de vérité. Il est l'ordonnance du drame sacré. Monodique, parce qu'il révèle le seul lien. Donc monodique, c'est-à-dire, hein, il n'y a pas de polyphonie. Hein. Le mot religare, l'unique cordon par lequel nous sommes reliés à celui qui a dit de lui-même « Je suis la voie, la vérité et la vie ». La polyphonie liturgique peut faire naître en nous l'émotion, et on y sent une certaine complaisance en l'exécutant, ce qui ne facilite pas l'unité intérieure, à la différence du grégorien, qui par sa simplicité met le cœur et l'esprit en harmonie avec la parole de Dieu. Et donc, c'est très beau, hein, ça, vous voyez. Bon, elle reconnaît, il y a une qualité autre dans un autre champ, mais est-ce que c'est ça qu'on cherche, oui ? Est-ce que c'est quelque chose qui nous unifie vers l'unique nécessaire, vous voyez ? C'est une unité du côté de la finalité, c'est pas une unité en soi, hein. C'est pas être bien ensemble et être tout content d'avoir chanté tel hymne. On est bien ensemble. Oui. Non, c'est... Oui, l'unité intérieure, c'est une unité par la finalité, c'est tous ordonnés vers la même fin. Donc ça manifeste aussi l'unité de la charité fraternelle. La charité fraternelle, c'est pas être bien ensemble comme des bons copains. C'est être unifié dans la lumière de Dieu. Donc c'est dans la mesure où chacun vit du Christ. Et c'est ça qui... Alors... Il doit être interprété avec allégresse et gravité. Il engendre le silence et une atmosphère contemplative sans égale. Pas question de valeur égale entre les signes. Alors oui, ça c'est tout à fait égal. Hein. Pas question. Vous allez voir ce qu'il disait il y a 15 jours, mais ça ne se répète pas publiquement. Il y a quel qui peut le dire, ça. Pas question de valeur égale entre les signes, mais au contraire, rythme libre et ordonné, structuré, avec une grande fluctuation du mouvement et un dynamisme discret. C'est très beau, hein, ça. Cette monodie en modulation constante court solitaire et dépouillée comme une source dans le désert. Et c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. La musique, c'est l'art qui évoque la source. Elle ne souffre aucun accompagnement, ni vocal ni instrumental, sous peine d'être emprisonnée comme un oiseau en cage. Ce qui explique son caractère spécifiquement virginal, le chant nouveau et l'immaculée conception de la Vierge Marie. Et c'est vrai, c'est virginal dans la mesure où ça vient de la source. Hein. Ça vient de l'intérieur. Sinon, ben, oui, on tombe dans l'aspect profane, mondain. Le concile... Bon, après, c'est des choses pratiques. Et qu'on ait tous la possibilité d'exécuter des chants de l'ordinaire de la messe en langue latine. Parce que c'était un texte pour l'Osservatore Romano. Vous voyez ce qu'il faut comprendre hein, ici. Cette espèce de liberté qui vient de l'intérieur, ce rythme qui nous conduit au silence, cette dimension de source. C'est pour ça qu'il est ordonné à la contemplation. Donc, il exige le dépouillement. Alors, voilà. Pour elle, c'est ça l'esprit du chant grégorien. Alors, vous voyez... il aurait fallu commencer par ça et analyser ça, puis vous voyez, le voir concrètement. C'est le manque de temps. Donc j'ai pris d'abord ce qui me semble être l'art chrétien dans la lumière propre. Et dans cette lumière, essayer de retrouver les notes de l'art chrétien à travers ça. Donc c'est bien une des dimensions. Alors vous voyez, j'ai bien regardé un seul aspect, hein, je n'ai pas regardé la dimension liturgique et communautaire. Ce n'est pas mon propos ici. Donc il faut le replacer dans autre chose. Hein, mais j'ai vraiment essayé de regarder l'aspect artistique par rapport à ce chant particulier et essayer de saisir son esprit. Voilà. Alors, quelques éléments. S'il y a des questions, vous les poserez.